Père Pierre Lombard, bonjour.
Bonjour Gérard.
Vous êtes responsable de l'avis consacré pour le diocèse. Aujourd'hui, vous venez nous parler du 8 octobre, journée du jubilé de la vie consacrée, qui se passe pour nous dans le Gard, mais qui se passe aussi à Rome.
Oui, effectivement, le 8 octobre, comme cela se passera à Rome, avec beaucoup de gens qui iront en pèlerin, dans cette année du jubilé, avec notre pape Léon, il y a une grande journée, comme pour d'autres groupes d'ailleurs. Il y a une journée entière qui est vécue pour tous les consacrés, celles et ceux qui, dans l'Église catholique, mais ça peut être dans d'autres églises aussi, ont consacré toute leur vie à Dieu. Ça peut être comme moine, monial, religieux, religieuse, ou qui ont fait une consécration dans un groupe, dans un institut particulier qui a touché leur cœur. Donc ils se sont consacrés à Dieu et à leurs frères. C'est pour ça qu'on les appelle des consacrés. Ils ont marché sur les pas du Christ, bien sûr comme tous les baptisés, hein, mais avec un choix définitif. Oui, certains vivent en communauté, d'autres seuls. Mais enfin voilà, la vie consacrée, donc une vie totalement donnée à Dieu et aux autres.
Oui, la vie consacrée, c'est-à-dire que, par exemple, les vierges qui se sont consacrées, ça en fait partie.
Bien sûr, voilà, ils ont suivi le Christ, et ils suivent le Christ à travers une vie donnée totalement corps et âme, à la fois au Seigneur, mais aussi à leurs frères. À leurs frères, par exemple, les plus pauvres, les malades, dans leur quartier, dans leur travail.
Mais il y a aussi les ermites.
Bien sûr, les ermites, ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a. Il y a des personnes qui choisissent la solitude, de vivre dans la solitude. Et ils ne le font pas uniquement pour eux, ils le font aussi pour nous. Ils nous portent dans leur prière.
Donc porter ce monde dans la prière, c'est aujourd'hui très important.
Eh oui, intercéder pour ce monde, ça a toujours été important. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à cause des situations douloureuses que vit le monde, on s'aperçoit qu'il est bon que certains et certaines soit devant Dieu pour tous et particulièrement pour ceux qui sont les plus éprouvés.
On dit même que si certains s'arrêtaient de prier, le monde s'écroulerait.
Ben oui, c'est sûr qu'ils sont un peu comme nos paratonnerres.
Donc ce jubilé des consacrés, le 8 octobre, ça consiste en quoi ?
Alors ça consiste d'abord, comme l'ont vécu d'autres groupes, par exemple les malades ont eu une journée, les familles ont eu une journée. Il y a eu un calendrier qui a été publié quand le pape François, c'est lui qui a pris l'initiative, hein, à la fin de 2024, il a pris l'initiative de lancer toute une année de chemin dans l'espérance. On appelle ça le jubilé de l'espérance. Et je reviendrai sur ce mot d'espérance parce qu'il faut essayer de non seulement de le comprendre, mais de voir qu'est-ce qu'il contient de beau. Donc il y a les malades qui ont fait leur journée, les familles, les prêtres, les personnes handicapées, les catéchistes, les diacres. Et là, c'est la journée des consacrés. Il y a eu les artistes aussi, on pourrait citer. Moi j'ai le calendrier sous les yeux. Il a commencé ce calendrier le 9 mai, vous voyez, 2024. Et c'est le pape François qui a lancé ce grand chemin. Et par exemple, j'ai sous les yeux, bientôt après nous là, après les consacrés, juste avant, quelques jours avant, c'est le jubilé des grands-parents. Vous voyez, ça rentre vraiment dans toutes les catégories de personnes. Il y a les militaires, etc. Voilà.
Puis il y a même des endroits où ce sont les motards.
Et oui, les motards, oui, les motards. Et vous voyez, hier, je rencontrais un ami qui me disait qu'il avait accueilli dans sa maison un anglican de spiritualité franciscaine qui marchait à pied depuis l'Angleterre et qui serait certainement pour la Noël ou avant. À Rome, il veut faire ce jubilé d'une manière œcuménique. Par exemple, dimanche dernier, le pape a célébré dans la grande basilique Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome une célébration avec les orthodoxes, les protestants, d'autres dénominations chrétiennes, d'autres églises chrétiennes, au sujet des martyrs. Depuis 25 ans, il y a eu, rien que dans l'Église catholique, autour de 1600 personnes qui ont été assassinées à cause de leur foi. Et donc il y avait une célébration où étaient invités Donc là, c'était une dimension œcuménique avec d'autres églises chrétiennes ou communautés chrétiennes. C'était pour prier, pour rendre grâce pour le beau témoignage qu'ils ont rendu dans leur pays, qui sont souvent des pays en guerre.
Ceux qui créent des martyrs ne ciblent pas forcément telle ou telle religion.
C'est ça, voilà. En tout cas, là, c'était à l'invitation de l'Église catholique pour les martyrs d'origine catholique. Mais c'est sûr que d'autres aussi connaissent des gens qui ont versé leur sang à cause de leur foi.
Alors, ce jubilé de la vie consacrée, ça consiste clairement en quoi ?
Alors, c'est toute une journée. Comme ça sera vécu à Rome, nous l'avons adapté chez nous. Donc j'invite les religieux, les religieuses, les communautés, même les monastères qui vont le vivre, j'en parlerai tout à l'heure à leur façon, dans leur monastère, les moniales. Ça consiste à faire une journée qui aura lieu à Nîmes. Alors voici comment elle commencera. Nous avons voulu commencer dans le lieu du premier Nîmois connu dans l'histoire, qui s'appelait Baudile. Dans une église de Nîmes porte le nom Saint-Baudile, qui fut martyr, donc, chez nous, fin du 4e siècle, début du 5e siècle, et dont nous nous retrouverons près de l'église Saint-Luc, dans un lieu qu'on appelle les Trois Fontaines. C'est à côté d'un petit jardin où il y a une cavité, une grotte, où se trouve le sarcophage, donc le tombeau en pierre de ce saint qui a été déposé là autrefois. Nous considérons qu'il est comme la pierre fondatrice de la foi chrétienne dans la cité de Nîmes et aux alentours. Donc on va se retrouver là, parce que pour nous c'est un lieu source.
Oui, ça me rappelle quelque chose, il y a eu un petit pèlerinage là pour le...
Et voilà, l'époque de Charles de Foucault, il y a 2 ans.
Ce lieu qui ne se voit pas beaucoup, puisqu'il est un peu retiré,
Voilà, il est signalé, il est bien connu, il est entretenu, puisque c'est un parc public. Il est dans un petit parc public, il y a une croix qui est au-dessus de la petite grotte. Il faut descendre, mais on peut poser les voitures tout à côté. C'est à 2 pas de l'église Saint-Luc, rue des Moulins. Alors là, peut-être vous voulez que je vous dise qu'est-ce qui va se passer.
Oui.
Mais voilà, brièvement, j'ai invité tous ceux qui le pourront à marcher. Alors certains ne pourront peut-être pas faire de grandes enjambées, mais ils pourront venir en voiture, il y a de la place tout autour pour garer les voitures. Et là, je propose à ceux qui viendront, ceux et celles qui viendront, de dire quelle est leur espérance aujourd'hui. Comment vous vivez l'espérance dans les situations qui sont les vôtres, par exemple dans les difficultés de santé, au contact des pauvres, dans les responsabilités qui sont les vôtres, et comment vous vivez l'espérance. Et puis, ceux qui le veulent, il y en a déjà qui m'ont écrit, comment vos fondateurs, ceux qui ont été au point de départ de votre famille religieuse, par exemple le père d'Alzon, ici à Nîmes, je pense, pour les assomptionnistes, je pense à Charles de Foucault, pour ceux qui marchent sur les traces de Charles de Foucault, mais ça peut être aussi Sainte Marie Rivier, pour les sœurs de la présentation de Marie, ou Sainte Thérèse d'Avila, pour les carmélites. Ils pourront dire, voilà comment notre fondateur, notre fondatrice a vécu l'espérance.
Alors l'espérance, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est ?
Ah voilà, la grande question, il faut commencer par là, vous avez bien raison Gérard. L'espérance, qu'est-ce que c'est ? Mais je voudrais prendre une image que le pape lui-même a prise dans sa lettre. Quand il a lancé l'année du jubilé, le pape François a donné l'image de l'ancre. L'ancre marine qui pend sur les bateaux, on le voit quand les bateaux circulent, et puis quand le bateau arrive au port, eh bien on jette l'ancre, c'est-à-dire c'est un poids qui va stabiliser le bateau. Donc vous voyez, l'ancre, c'est signe d'abord de stabilité. Le bateau, il est battu par les vagues, par la houle, par le vent, mais il est stable, il ne va pas partir à la dérive parce qu'il y a une ancre qui le maintient stable, même s'il bouge un peu, même si parfois les vagues sont fortes, l'ancre marine le stabilise, lui donne donc une certaine solidité et une sérénité pour ceux qui sont dans le bateau. Donc l'espérance, c'est ce sentiment que nous avons dans le cœur qui fait que nous faisons confiance. Malgré les coups de vent, malgré les revers de la vie, malgré les gros soucis qui sont les nôtres, nous faisons confiance à Dieu parce que nous savons qu'il s'occupe de nous, il prend soin de nous. Alors nous traversons ces moments difficiles, ces moments de ténèbres, ces moments d'aridité, ces moments d'épreuve, mais nous les traversons parce que la main de Dieu est là et nous accompagne. C'est ça l'espérance, cette sérénité, cette confiance, parce qu'on se sait guidé.
L'espérance, c'est pas un espoir d'avenir.
Ah non, il ne faut pas confondre avec l'espoir. L'espoir, demain il fera beau, bon, je peux consulter la météo pour savoir si ça va se réaliser. Mais l'espérance, c'est pas ça, c'est que je n'y vois pas. Je sais pas ce que j'aurai à vivre. Je pense à des malades, par exemple, à des personnes qui traversent de grosses épreuves, un deuil qui les a beaucoup secouées. L'espérance, c'est vrai, actuellement je suis bouleversé. Actuellement, je suis dans une période de brouillard, mais je fais confiance. Je sais que Dieu ne m'abandonne pas, il marche avec moi, il est avec moi.
Mais il y a des circonstances où faire confiance au Seigneur, c'est quand même pas évident.
Non, et c'est là où l'espérance aussi peut puiser dans l'aide des autres. Vous savez, souvent des gens vous disent « Oh, heureusement que tu as été là, tu m'as écouté. Heureusement tu m'as téléphoné tel jour, j'ai pu venir te parler. » Tu m'as compris, tu ne m'as pas jugé. Les autres nous aident. Donc, ce jubilé de l'espérance nous fait découvrir aussi que nous marchons sur un chemin d'espérance parce qu'il y a des gens autour de nous qui sont là, qui nous portent, qui nous soutiennent, qui nous aiment.
Est-ce que finalement l'espérance, c'est pas avoir foi dans ce qu'on ne voit pas ?
Et voilà, c'est ça. On ne le voit pas, on ne sait pas ce que ce sera le lendemain. On ne connaît pas la suite du programme, mais on marche. On marche en disant, je sais que le chemin ne débouche pas sur le néant et le vide, mais qu'il y a une rencontre au bout du chemin.
Oui, vous dites bien, on marche.
On marche.
Ça fait s'adhérer à la terre et
voilà.
La tête dans le ciel. Si vous...
C'est pour ça que je trouve que le mot de pèlerin, les pèlerins qui marchent, avec la pluie et le soleil, avec les cailloux, avec la faim, avec la soif. Le pèlerin et le pèlerinage, c'est la condition normale de ceux qui espèrent. Le pèlerin, il marche vers un but, mais le chemin est rude. Hein. Le chemin est rude et puis parfois, disons, on n'est pas toujours bien accueilli sur le chemin. On souhaiterait, quand on frappe à une maison, pour demander de l'eau, pour demander son chemin. Parfois, on est très bien accueilli, il y a de belles choses, mais parfois, on se fait ramasser. C'est-à-dire, les gens ne nous accueillent pas parce que peut-être on les a dérangés ou ils ont été trop dérangés parce qu'ils sont sur des chemins des pèlerins.
Les consacrés, ils ont dû avoir un avant-goût avec la célébration jubilaire à Saint-Gilles.
Absolument. Ceux qui ont marché à Saint-Gilles, s'il y en a qui m'écoutent, c'était le 30 août dernier, ils se rappellent de ce qu'ils ont vécu sur le chemin.
Quelle est la spécificité de ce jubilé pour les consacrés ?
Alors donc, après ce moment-là, c'est pas fini. Nous allons marcher, on parlait de la marche. Nous allons descendre à la cathédrale de Nîmes qui est en restauration, au moins la façade actuellement. Je l'ai visitée l'autre jour, j'ai visité avec notre évêque et des prêtres, on est monté sur les échafaudages. Donc on va aller à la cathédrale, car pour nous les catholiques, la cathédrale est un lieu majeur. C'est le lieu des grandes célébrations, c'est le lieu où l'évêque a son siège épiscopal. Pour les grandes célébrations, il est là, il préside. Donc nous allons nous rendre à la cathédrale pour un temps de prière silencieuse. Nous appelons ça le temps de l'adoration de l'Eucharistie. Nous serons en silence pendant demi-heure, trois quarts d'heure. Et nous terminerons par la prière du jubilé que le pape François a composée lui-même. Mais ce n'est pas fini. Alors ceux qui peuvent le faire à pied le feront. Ceux qui ne le peuvent pas descendront en voiture. Et nous nous rendrons rue Salomon et Reynac, donc de l'autre côté des ponts, à la maison diocésaine, où là, nous sommes invités à la célébration de la messe, de l'Eucharistie. Donc les consacrés qui sont là, les jeunes et les autres, les moins jeunes, auront donc dans la grande chapelle de la maison diocésaine, l'Eucharistie, en fin de matinée, vers 11h, 11h15. Et puis ensuite, repas fraternel. Nous avons demandé à la maison diocésaine de nous préparer un repas, qui sera un peu développé ce jour-là, bien sûr, un petit repas de fête, pendant lequel on donnera des nouvelles des uns et des autres. Et en particulier, il y a un moment d'information que je donnerai, qui me semble très beau, c'est que les trois monastères du diocèse, je les cite, les Carmélites d'Uzès, les Clarisses de Nîmes et les cisterciennes de la Paix Dieu près d'Anduze à Cabanoule nous ont fait passer un message pour nous dire comment elles vivent dans leur monastère cette journée. Certaines avec un pique-nique, un temps de partage, l'adoration eucharistique, le temps de prière du chapelet, la messe bien sûr, et puis un message d'espérance qu'elles nous ont envoyé. Et ça, je trouve ça très beau, parce que même si les sœurs qui vivent dans une clôture monastique, donc dans un lieu où elles ne sortent que très rarement, eh bien, elles sont avec nous, elles marcheront, j'allais dire, dans leur cœur et dans leur imagination, elles marcheront avec nous. Par exemple, il y a un des monastères où chacune aura son petit sac à dos, et elles iront dans leur jardin pique-niquer pour échanger aussi sur l'espérance qu'elles essayent de vivre.
Je suppose que la façon de vivre l'espérance dans un monastère, c'est quand même pas radicalement différent, mais de la façon dont les chrétiens vivent ça en paroisse.
Oh, vous savez, dans les monastères, ils sont faits comme de nous, des chairs et d'os. Je pense que les moines et les moniales, alors même s'ils ne bougent pas comme nous, s'ils ne voyagent pas autant que nous voyageons, je pense qu'ils connaissent les mêmes moments d'aridité, les mêmes difficultés. Et puis, vous savez, j'en connais quelques-uns, et ils me parlent de leur vie fraternelle, de leur vie communautaire. Ce n'est pas toujours évident. Il y a les caractères, il y a les éducations, et maintenant les cultures. Certaines communautés viennent de cultures différentes, d'Afrique, d'Asie, d'Europe. Donc, dans les monastères, eh bien, on retrouve des choses humaines que nous retrouvons ailleurs dans nos familles ou dans nos paroisses.
C'est peut-être un peu plus ardu dans un monastère de vivre tout le temps avec l'autre avec lequel on n'a pas des affinités.
Surtout qu'on ne les a pas choisis. On ne s'est pas choisi. On est rentré là. Bon, on a été attiré par un lieu, on a été attiré par la prière, la ferveur d'une communauté. Mais après, on découvre parfois, eh bien, il y a des aspérités, il y a des moments difficiles pour se comprendre, pour s'écouter.
Alors, cette journée du 8 octobre, on va rappeler brièvement son déroulement.
Voilà, donc, le matin, aux Trois Fontaines, dans le lieu du martyr de Saint-Baudilanime, près de la paroisse Saint-Luc, à 10h30 à la cathédrale, pour un temps de prière silencieuse, la prière jubilaire. Ensuite, nous descendons rue Salomon-Reynac, au-delà des ponts du chemin de fer, nous descendons à la maison diocésaine pour l'Eucharistie, à 11h30, et ensuite le repas fraternel dans la salle à manger de la maison diocésaine. Mais ce n'est pas fini, car l'après-midi, pour les plus courageux, pour celles et ceux qui le pourront, nous invitons à, en covoiturage, nous invitons à partir pour Saint-Gilles. Et oui, Saint-Gilles, voilà une autre belle figure de notre église diocésaine, cet ermite. Vous parliez d'ermite tout à l'heure, Gérard. Cet ermite qui, ensuite, sur les lieux où il a vécu, ces lieux ont accueilli donc des bénédictins au Moyen-Âge, et puis qui est devenu un des plus grands pèlerinages de la chrétienté au Moyen-Âge. Donc là, nous irons visiter l'abbatiale de Saint-Gilles, le portail. Nous essaierons de découvrir ce portail qui a été restauré il y a peu. Nous regarderons derrière l'ancien chœur qui n'existe plus. On voit l'espace qui a été récemment restauré. Et nous terminerons dans la grande crypte. Cette crypte magnifique était une des plus grandes d'Europe au point de vue crypte. Donc sous l'église, nous terminerons par l'office des vêpres avec le chant des psaumes avant le retour des uns et des autres dans leurs communautés différentes sur Alès, la vallée du Rhône, Nîmes, Beaucaire, etc.
Une petite question, si il y en a qui ne sont pas consacrés et qui veulent, si vous voulez, un partage fraternel, venir, c'est possible?
Ah oui, tout à fait. Rien n'est caché, rien n'est, je veux dire, réservé. S'il y en a qui veulent nous rejoindre le 8 octobre au matin à 9h30 aux Trois Fontaines, ils peuvent venir. Ceux qui veulent venir prier à la cathédrale avec nous peuvent venir également à 10h30. La messe à la maison diocésaine à 11h30. Et puis s'il y en a qui veulent nous accompagner sur Saint-Gilles, ensuite à 14h30, ils sont les bienvenus.
Père Pierre Lombard, merci beaucoup.
Eh bien, je suis très heureux d'avoir pu parler aux auditeurs de Radio Ecclésia de cette journée, et je souhaite à chacun de vivre cette confiance en l'avenir, même quand le ciel est voilé ou quand les difficultés nous assaillent. C'est ça, espérer, marcher en faisant confiance.
Merci, à bientôt.
À bientôt.